Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 147 pour le samedi 18 février 2012, le Bullshido. Aujourd'hui, je vais discuter quelque peu des arts martiaux et de ce qu'on appelle en général le Bullshido. C'est un mot en anglais qui vient de bullshit, donc foutaise, et do, la voix, donc c'est la voix de la bullshit, la voix de la foutaise. Et c'est un peu toutes les croyances bizarres et étranges qui sont véhiculées dans le monde des arts martiaux. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas très couvert par les sceptiques de manière générale. C'est très spécialisé si on veut. Mais en tout cas, moi je pratique un art martial, je fais de l'aïkido. Bon, pour être clair là-dessus, je suis ceinture noire d'aïkido, premier dan. Donc c'est un sujet qui m'intéresse. Et même si le bullshido n'est pas un sujet classique, c'est pas comme l'astrologie ou tous ces sujets qu'on couvre habituellement sur le balado, il y a un site américain qui s'appelle donc Bullshido, que vous trouverez à www.bullshido.net, qui est entièrement consacré à ce sujet-là. Et donc moi, c'est un site, vu que j'ai de l'intérêt pour le sujet, que je suis toujours, et donc il couvre quelles sont les techniques de combat, les types d'entraînement réellement efficaces, et puis alors tous les aspects problématiques autour des arts martiaux et des pratiques un peu bizarroïdes qui se greffent dessus. Et donc, grosso modo, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est aussi influencé, bon, évidemment, par ma pratique personnelle, par mes réflexions personnelles, mais aussi par ce site Bullshido qui est vraiment excellent. Mais avant d'attaquer le sujet lui-même du Bullshido, je voudrais faire un coup de pub pour le The 6-1 Skeptics Congress, donc le 6e congrès mondial des sceptiques, qui cette année va se tenir à Berlin, donc en Allemagne, du 18 au 20 mai. Il va avoir toute une série d'orateurs relativement prestigieux, donc je vais vous en parler quelque peu. Bon, évidemment, il y a pas mal d'orateurs allemands que je ne connais absolument pas, mais ça sera l'occasion de les découvrir. Il y aura Chris French, qui est un responsable de l'unité de recherche en psychologie anomalistique à l'université de Goldsmith, donc il est spécialisé dans l'étude du paranormal d'un point de vue sceptique. Harriet Hall, qui est un docteur spécialisé dans les pseudomédecines. Ray Hyman, qui est quelqu'un de relatif très âgé, mais qui a été un des plus grands, il est toujours, puisqu'il est toujours vivant, sceptique de la parapsychologie, critique de la parapsychologie. Enfin, moi, je suis un fan de Ray Hyman. Il a écrit plusieurs ouvrages qui sont aujourd'hui des classiques sur le sujet. Le principal étant The Elusive Query. Donc voilà, il va sûrement parler de parapsychologie. Ensuite, on a Chris Mooney, qui est un journaliste spécialisé dans les sujets qui sont à l'intersection entre la science et la religion. Il est aussi l'hôte du balado Point of Inquiry, un des autres. Et il est spécialisé actuellement, je pense qu'il parlera certainement des dénialistes du réchauffement climatique et de comment la politique interfère avec la science. Alors il y a Massimo Polidoro, qui est le sceptique italien le plus célèbre, qui fait pas mal d'enquêtes de terrain sur des phénomènes paranormaux. Il y a James Randi, je suppose qu'on ne présente pas. Eugenie Scott, qui est la responsable du National Center for Science Education, donc qui est l'association américaine qui s'occupe de lutter contre les dérives créationnistes à l'école. Simon Singh, qui a écrit donc Trick of Treatment, qui est un spécialiste des pseudomédecines anglais. Kylie Sturgess, qui est une sceptique australienne qui s'occupe d'un balado qui s'appelle Token Skeptic. Donc ça, je suppose qu'ils essayent d'avoir des gens d'un peu du monde entier, donc des Britanniques, des Américains. Je suppose que Kylie Sturgess va représenter fièrement l'Australie. Rebecca Watson, on en a déjà parlé sur le balado, elle fait partie du podcast le plus célèbre au monde, donc le Skeptic's Guide to the Universe, et puis elle s'occupe du site web Skeptic, et sa spécialité c'est un peu l'intersection entre féminisme et scepticisme, même si elle est relativement controversée, mais bon, moi je suis plutôt fan. Voilà, donc ça, c'est les différents invités qui font des interventions à ce World Skeptic Congress. Alors, juste un mot à propos du prix, parce que bon, sur Facebook, il y a eu pas mal de discussions à propos du prix. Sur la page Facebook de l'Observatoire Zététique, c'est vrai que c'est pas donné, faut le dire. Le ticket est à 270 euros. Bon, personnellement, je pense que ça ne me dérange pas. Je fais partie des peu de gens qui trouvent que c'est pas un problème. En tout cas, dans cette discussion-là, sur la page Facebook de l'OZ, ma vision des choses, c'est que le mouvement zététique ou sceptique, enfin, c'est l'équivalent, à différents niveaux. Donc, il y a le niveau où t'as le niveau virtuel, où, avec tous les blogs et les balados comme celui-ci, qui sont de toute façon des produits qu'on fournit gratuitement. Je veux dire, la communauté sceptique produit des tas de choses qui sont parfaitement gratuites, hein, parce que vous ne payez pas pour écouter ce balado, ni aucun autre balado sceptique si vous en écoutez en anglais. Même chose pour les blogs. Hein. Et puis alors, il y a le niveau local avec des organisations comme Skeptics in the Pub, comme moi j'organise sur Bruxelles, ou encore Drinking Skeptically aux États-Unis. Donc, boire sceptiquement, c'est un peu l'équivalent des Skeptics in the Pub, mais du côté outre-Atlantique. Et puis, il y a des événements qui sont vraiment très abordables, du genre Skeptic Camp, où c'est les gens qui viennent qui proposent des interventions. Il n'y a pas de star invité, donc c'est pratiquement, je sais pas combien de monde, mais c'est pratiquement rien. En France, bon, évidemment, il y a l'OZ qui organise un camp d'été, ça coûte pas cher. Je veux dire, si vous voulez aller au week-end du CNEGU et que vous en faites la demande, ça va pas, à part le déplacement, vous ne payerez rien. Donc il y a des tas de choses à un niveau local qui, si vous êtes un sceptique, vous pouvez aller et qui ne coûte rien. Mais maintenant, je pense qu'au niveau, c'est ce qu'on appelle en anglais le grassroots scepticisme, le scepticisme au niveau local, qui est extrêmement actif, beaucoup plus dans le monde anglo-saxon qu'en Europe, même si on essaie un peu de changer ça. En Angleterre, je pense qu'ils ont quelque chose comme une trentaine de Skeptics in the Pub, par exemple. Bon, ici, moi j'en organise un sur Bruxelles, mais bon, il faudrait que ça se répande un peu dans le reste de la France plutôt que les repas ufologiques où on raconte tout et n'importe quoi. Enfin, bon, ça c'est mon opinion. Mais c'est pour dire, le mouvement sceptique, il y a cette couche de grassroots scepticisme, de scepticisme de base, où tout est gratuit ou extrêmement abordable. À côté de ça, il y a les grandes organisations et la question c'est toujours quel rôle ces grandes organisations doivent jouer? Ben, ça sert à rien que les grandes organisations jouent le même rôle que les petites organisations, les organisations locales. Les grandes organisations doivent organiser des choses plus fédératrices, y compris à mes yeux des grands événements comme The Amazing Meeting organisé par le JREF ou je sais pas, les événements organisés par le CSI. Et donc pour moi, c'est normal que le World Skeptic Congress organise un tout gros événement. Alors le prix, ben oui, c'est parce que forcément, ils ont des invités prestigieux, il faut les inviter, on paye le déplacement. Moi, je dis, tout travail mérite salaire. Hein. Ces gens devraient refuser d'être payés pour ça, donc je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Surtout que je pense personnellement que c'est important qu'il y ait des sceptiques professionnels. C'est vrai qu'il y a la grande 99%, enfin, des sceptiques, c'est des amateurs comme moi, on a tous un boulot à côté, on fait ça en plus par passion. Mais c'est quand même bien qu'il y ait des gens comme Johnny Kell ou James Randi ou Ben Radford, dont ce soit le travail d'être un sceptique pour pouvoir aller enquêter sur le terrain, qui soient des spécialistes et qui soient rémunérés. Mais pour qu'il y ait des sceptiques professionnels, il faut qu'il y ait des sources de rémunération pour eux. Bon, évidemment, ils peuvent vendre des livres. Je pense pas, on sait tous que c'est difficile de gagner sa vie juste en vendant des livres. Bon, alors il y a les publications magazines, mais un peu la même chose, hein. Si on se publie uniquement des choses de type sceptique, pas avec ça qu'on va couvrir les frais pour les enquêtes de terrain, etc. Et donc ce genre d'événement, mais c'est aussi pour entretenir ces sceptiques professionnels. Et je pense que cette couche supérieure par les grandes organisations est importante pour le dynamisme du mouvement. Il y a la couche de base qui est extrêmement importante, si pas plus, mais il faut aussi une couche supérieure avec des gros événements. Alors bon, maintenant le prix, oui, c'est vrai qu'il est c'est cher. Maintenant la question c'est s'ils ont utilisé de manière judicieuse cet argent, voilà, juste pour inviter, s'ils l'utilisent comme je le pense, juste pour payer les frais de déplacement et de logement des stars qu'ils invitent, je veux dire c'est très bien, quoi, voilà. Maintenant, je veux dire, je pense pas qu'ils se mettent de l'argent dans la poche. Là, évidemment, s'ils mettaient de l'argent dans la poche, ce serait un peu problématique, mais je crois pas du tout que ce soit le cas. Aussi, ce que je trouve bien, c'est on sait que TAM, The Amazing Meeting du JREF, tend à essayer d'être l'événement principal des sceptiques dans le monde. Ils sont exportés à Londres, ils sont exportés En Australie, moi je pense que c'est bien que les Européens hein, se réveillent un peu. Donc là, c'est organisé par l'EXO, hein, European Council of Skeptical Organizations. Et essaye de dynamiser le sceptique en Europe, puisqu'on est un peu nulle part. Alors, je trouve ça bien que ce soit une organisation européenne qui dise on organise le World Skeptic Congress pour un peu dire qu'il se passe quelque chose chez nous et que tout n'est pas du côté anglo-saxon. Dans les discussions, on me dit ouais, mais. C'est pas bien qu'il y ait... Enfin, j'ai l'impression générale que c'est pas bien qu'il y ait des stars du scepticisme. Pff, en quoi c'est pas bien? Moi, je dis, je trouve ça bien qu'il y ait des porte-paroles, ne serait-ce que pour avoir des gens qui sont plus médiatisés, que les journalistes vont plus facilement interviewer, etc. Moi, je trouve ça très bien. Enfin, dire que je suis un... Moi, ça me gêne pas de dire que je suis un fan de Reimann et que si j'ai l'occasion d'aller en Allemagne et de discuter avec lui de parapsychologie, je serais vachement content, quoi. C'est pas... Les événements locaux, oui, je dis pas, hein... Je trouve qu'on fait des choses bien au niveau local, mais je veux dire, on ne peut pas comparer le travail fourni par ces sceptiques professionnels ou ces stars du scepticisme avec le travail fourni par des amateurs. Enfin, il y a quand même une différence en termes de. Enfin, si vous prenez John Nickel, par exemple, enfin, il n'est pas invité au World Skeptic Congress, mais je crois que le gars, il a au moins une vingtaine de bouquins publiés sur le paranormal. Voilà, je veux dire, c'est un puits de science sur le sujet. Il y a des sceptiques qui ont eu des carrières qui sont des sceptiques célèbres. Que ça dérange des gens, bon, bah tant pis, quoi. De même pour la question de... Ah, mais alors les gens qui sont pauvres, au chômage, ne peuvent pas y aller. Bah oui, ça c'est vrai. Mais encore une fois, c'est contrebalancé par le fait que il y a des tas de produits gratuits. Je veux dire, les gens qui sont au chômage, ils peuvent écouter les balados, ils peuvent. Ça, c'est gratuit, ils peuvent lire sur le net, ça, c'est gratuit aussi. Je veux dire, c'est un peu comme dire, ah, mais les chanteurs, quand ils sont célèbres, je sais pas moi, Madonna, vous êtes un fan de Madonna, ça coûte cher d'aller la voir en concert. Bah ouais, bah bon, vous pouvez toujours écouter son CD, c'est la même chose. Alors, c'est un peu dire, oh, ça sert à rien d'aller écouter Madonna en concert, parce que de toute façon, vous pouvez écouter toutes ses chansons en CD. Bon. Je trouve ce genre d'argument pas très convaincant. L'occasion d'aller voir, je sais pas, serrer la main à James Randi, chatter avec lui, discuter avec lui de certaines des choses qu'il a faites dans sa carrière, c'est pas la même chose que de lire James Randi sur le site du Jeff. Mais encore une fois, si vous n'avez pas les moyens d'aller au World Skeptic Congress, il y a tout le reste, toutes les autres productions qui sont gratuites et je trouve que les sceptiques, la blogosphère et la podosphère sceptique sur le net, c'est fameux, hein, et c'est quand même du boulot. Tous les podcasts qui sont produits, tous les blogs qui sont écrits, et tout ça gratuitement. Enfin bref, c'était un peu au niveau de la controverse autour du World Skeptic Congress. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je vais voir parce que je suis très occupé avec mon travail pour le moment, mais si j'ai la chance, je suis en train de voir un peu les billets d'avion, mais moi, je suis en train de réfléchir à y aller, c'est quelque chose qui m'intéresse. En tout cas, voilà, quoi, si j'ai la chance de, encore une fois, discuter avec Rebecca Watson ou James Randi ou Rhea Eyman, je trouve que pour moi, ça, certainement, ça le vaut. Alors bon, maintenant, j'irai peut-être, et peut-être que je serai déçu, et je reviendrai, je ferai un épisode du balado, où je dirais que ça n'en valait pas la peine. Mais bon, a priori, je ne fais pas partie de ceux qui disent, ah oh non, le prix est incroyablement cher. Aussi, un autre point, dans le même ordre d'idée. Si ils avaient organisé le World Skeptic Congress, le congrès mondial, en n'ayant que des intervenants allemands. Bon, déjà, c'est un peu ridicule sur le principe. Mais mettons, ben, qui serait allé, quoi? Moi, je ne serais pas allé. Ça ne m'intéresserait pas de me taper Berlin que pour entendre des sceptiques absolument inconnus d'origine allemande. Il faut être clair. Ça m'intéresserait dans l'absolu de les écouter. Mais alors là, payer le billet d'avion pour Berlin, plus l'hôtel, etc. Et même un prix dérisoire d'entrée, ça ne me motive pas autant que d'aller écouter James Randi ou Kyle Sturgess ou les autres. Ceux qui me disent, oh, le World Skeptic Congress aurait dû faire un prix beaucoup plus abordable, moi la question que je me pose c'est, ok, mais qui parmi vous aurait alors fait le déplacement à Berlin pour aller voir des interventions de sceptiques allemands qu'on ne connaît ni des lèvres ni des dents? Des bons petits détours par le World Skeptic Congress, on en reparlera certainement. Et maintenant, je voudrais un peu parler du Bushido. Donc, le Bushido est un mot utilisé par les sceptiques anglo-saxons pour désigner des pratiques pseudo-martiales. Donc, comme je le disais, c'est construit à partir du mot donc Budo pour la voix des guerriers en japonais et de Bullshit, donc foutaise en anglais, donc Bushido. Et en fait, ça désigne toutes les superstitions qu'on trouve dans le milieu des arts martiaux. Quand on pratique les arts martiaux, il y a toujours la question de l'efficacité en combat réel. C'est des discussions qui se déroulent que les pratiquants d'arts martiaux ont très souvent. Qu'est-ce qui est efficace en combat réel et qu'est-ce qui n'est pas efficace en combat réel? Et du côté du Bushido, bah, c'est vrai que c'est assez accablant pour les pratiques d'arts martiaux traditionnels. Moi, je fais partie de ceux... Bon, je fais de l'aïkido, donc je vais parler de l'aïkido, mais je pense que honnêtement, l'aïkido n'est pratiquement pas efficace en combat réel. Évidemment, c'est toujours... Dans quel contexte est-ce qu'on se place, etc. C'est vrai que faire un sport, c'est toujours mieux que de ne pas en faire. Et faire un sport bon, qui implique certains types de contacts physiques, de martial, ou enfin des clés, par exemple, comme en aïkido, ou des chutes, c'est toujours mieux de ne pas en faire. Donc, si vous faites de l'aïkido par rapport à ne rien faire, c'est toujours mieux que de ne rien faire. De même, si vous vous retrouvez à vous battre dans la rue ou dans un bar, etc., contre quelqu'un qui n'a aucun entraînement, d'aucune sorte, sauf si le gars, c'est un gars qui se bat tout le temps dans la rue et donc il a beaucoup d'expérience de terrain pratique, ben, je veux dire, vous aurez l'avantage d'avoir l'entraînement d'aïkido que vous avez. Mais maintenant, la question, c'est comparer les différents types d'arts martiaux et de sports de combat et de voir ceux qui sont plus efficaces que d'autres. De ce côté-là, on peut dire que les sports de combat l'emportent largement, généralement. Disons que les critères qu'il faut, qu'on considère, le consensus actuel pour dire qu'un sport de combat ou un art martial est efficace, c'est qu'en tout cas, il faut que les coups soient portés, parce qu'il faut, pour être efficace en combat réel, il faut que vous soyez habitué à recevoir des coups, parce que sinon, ça, si vous n'êtes pas habitué, ça va vous déconcentrer pendant le combat, vous serez déstabilisé. Donc les entraînements avec combat libre et coups réellement portés, en tout cas avec des règles, hein, vous savez, il y a toujours des limites, hein, même dans les sports de combat les plus violents, on ne peut pas frapper dans les parties génitales, on ne peut pas frapper pour briser le genou. Enfin, il y a toujours des limites, hein. On ne peut pas enfoncer les doigts dans les yeux, on ne peut pas arracher la glotte. Il y a quand même des attaques qui sont interdites. Hein. Même les plus extrêmes des sports de combat sont quand même forcément, ou alors c'est des combats à mort. C'est toujours des approximations de combat réel. Aucune simulation de combat réel dans un ring ou quelque chose n'est un combat réel. Ne serait-ce aussi, par exemple, si vous prenez l'Ultimate Fighting où bon, les règles sont très larges, je veux dire, il n'y a pas de round, donc le combat est sans limite de temps. Il ne peut se finir que par un KO ou par l'abandon, et le ring est assez grand, et on ne peut pas sortir du ring. Mais bah même là, par exemple, il n'y a pas d'objet, quoi. En combat de rue, dans un combat réel, je sais pas, vous allez prendre une chaise ou une bouteille, la fracasser sur la tête de votre partenaire, ça ne se fait pas dans l'Ultimate Fighting, par exemple. Il y a toujours des conditions qui sont mises pour gérer le combat. Mais en tout cas, il faut un entraînement où les coups soient portés. Il faut un entraînement qui mette l'accent sur la condition physique, alors que souvent, les choses comme le tai chi ou bon, l'aïkido, en tout cas en Europe, au Japon, c'était plus axé en condition physique, mais il faut travailler le cardiovasculaire et la souplesse, parce qu'on a beau faire, mais la condition physique va jouer dans un combat réel. Et la troisième chose qui a été mise en évidence justement via l'Ultimate Fighting, c'est qu'il faut un entraînement au combat au sol. On peut vous imaginer un peu du judo, mais où, contrairement, enfin le judo c'est déjà bien, mais avec où les atémis sont autorisés, enfin où les frappes sont autorisées donc. Parce qu'on a remarqué justement dans l'Ultimate Fighting que les gens qui n'étaient entraînés qu'à se battre debout, style karatéka, etc., et s'il est autorisé dans le combat de se battre au sol, ben l'autre, le combattant qui est bon au sol, il bourre dedans, il met le karatéka au sol et puis il a gagné parce que le karatéka est nul au combat au sol. Il faut un entraînement au combat debout et au combat au sol, et c'est souvent au combat au sol que les choses se terminent. Pour avoir quelque chose d'efficace en combat réel, je disais, il faut avoir des frappes portées, il faut que les coups soient réellement donnés durant l'entraînement, il faut que l'accent soit mis sur la condition physique, et il faut une partie combat au sol. Bon, vous voyez, par exemple, déjà le karaté Shotokan classique, ça pose problème parce que les coups sont généralement pas portés et parce qu'il n'y a pas d'entraînement combat au sol. Bon, le judo, il y a le combat au sol, mais il n'y a pas le combat debout. Mais même au combat au sol, les atémis ne sont pas autorisés. Les frappes ne sont pas autorisées, ce qui pose problème parce que normalement, au combat au sol, dès que vous êtes en sol, vous pouvez essayer de placer des clés comme les judokas, mais généralement, vous allez aussi frapper la personne. Si vous êtes au-dessus, vous commencez à lui donner des coups dans le visage, etc. L'aïkido, il y a du combat au sol mais qui est totalement non réaliste. Il y a du combat debout mais les frappes sont pas portées. Et en général, la condition physique est travaillée mais pas suffisamment. Donc on voit que, alors le tai chi, il y a pas de combat au sol, il y a pas de coup porté parce que c'est du travail tout seul. Bon, et la condition physique est travaillée par l'exercice. Mais... Donc vous voyez comment les arts martiaux, en général, ne correspondent pas à ce qu'on sait être efficace. Alors évidemment, le problème, c'est que les pratiquants d'arts martiaux traditionnels font généralement des affirmations comme quoi, ah non, le karaté c'est réellement efficace en combat réel, ou l'aïkido c'est réellement efficace en combat réel. C'est ça qui pose un peu problème du côté du Bushido. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce que toi tu fais de l'aïkido si tu considères que il faut faire des sports de combat pour être réellement efficace en combat réel? Bon, évidemment, ma réponse est que moi ce qui m'intéresse c'est la culture japonaise, et l'aïkido reste une partie importante de la culture japonaise. Quand j'étais au Japon, si on veut donner une culture japonaise traditionnelle à ses enfants, ce qu'on lui donne, c'est on l'inscrit à un cours de calligraphie, à un cours d'aïkido au judo, et peut-être à autre chose comme de l'ikebana, par exemple, de l'arrangement floral. Donc il y a cet aspect-là. Et puis l'autre aspect, bon, moi quand j'étais plus jeune, j'ai touché un peu à différentes choses, à du kung-fu. Alors là, ils font des tas de choses qui sont impressionnantes quand on les voit dans les films, et qui en pratique sont pas utiles, parce que faire des sauts périlleux, des coups de pied sautés où tu perds toute ta stabilité, c'est pas génial non plus. J'ai fait du jujutsu, bon, c'est proche de l'aïkido avec des frappes. J'ai touché un peu à tout, comme beaucoup de pratiquants d'arts martiaux. On papillonne avant de choisir définitivement la discipline dans laquelle on va s'investir. Bon, alors pourquoi est-ce que je me suis investi dans la discipline? Bon, moi, c'est à cause des blessures, parce que le problème des entraînements efficaces en combat réel, donc des sports de combat, c'est les dégâts qu'on se prend. Le corps, il s'en prend beaucoup, quoi. On sait bien les dégâts, par exemple la boxe, les coups sont portés au visage, ça crée des millions de micro-lésions au cerveau, ça peut abîmer les dents si on maintient pas bien son protège-dents. Karaté aussi, hein, on peut... Enfin, je veux dire, quand les coups sont portés, les KO, c'est mauvais. Par exemple, en karaté ou à Toriyu, les coups de pied au visage sont autorisés, mais alors ça vous fait une rotation axiale de la nuque, donc ça fait un trauma. Ce qui génère le KO, c'est comme ça qu'on génère un KO. Je veux dire, c'est des choses qui vont pas... On sait, par exemple, que les boxeurs développent souvent des Parkinson à un âge avancé. Puis, au-delà de ça... Je sais pas, moi j'ai vu des pratiquants d'arts martiaux qui avaient raté une chute de judo, parce que les chutes de judo sont plaquées, donc peuvent être assez violentes, surtout en compétition, et ils s'étaient pété toutes les dents. On peut avoir des micro-lésions dans les dents, et puis les dents se mettent à tomber à cause des impacts des coups de poing. Puis alors, après on rentre dans les fractures du genou, etc. Et le problème des pratiquants de type sport de combat, c'est que souvent à 30 ans, 35 ans, 40 ans, c'est fini pour eux, leur corps est foutu, quoi. Donc il y a un peu une balance à maintenir. Enfin, honnêtement, je suis pas assez masochiste pour... quand on a 20 ans, ça va de se prendre des coups pendant des heures d'entraînement. Mais quand on est plus âgé, le goût finit par passer. Et puis, l'aïkido, ça peut se pratiquer. J'en ai vu des gens qui pratiquaient jusqu'à 70 ans. C'est l'aspect inverse, quoi. C'est que c'est une pratique qu'on peut avoir toute sa vie, justement parce qu'elle est beaucoup plus soft. Alors bon, il y a de temps en temps des accidents d'aïkido, mais bon, ça va être souvent des tendinites. On se prend un pied dans le hakama, donc le type de pantalon que portent les aïkidokas. Alors on se fait une foulure. Alors les plus graves, c'est si on rate une chute. Bon, les chutes d'aïkido sont nettement plus soft que les douces que les chutes de judo. Bon, alors, en 15 ans de pratique d'aïkido, j'ai vu un accident grave avec quelqu'un qui était en train de chuter, et une autre personne lui a chuté dessus au niveau du visage, donc il a eu effectivement les os de la nuque qui ont eu des fissures, donc il a eu mal à la nuque, un peu d'arthrose dans la nuque. Bon, il a plus fait d'arts martiaux après, mais enfin, il n'en est pas mort, et c'est pas bien grave. Ah bon, c'est pas gay sur le moment même. Et alors, je dis, c'est une fois en 15 ans, tandis que si vous allez dans les salles d'entraînement des sports de combat, les accidents sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fréquents, évidemment. Donc c'est une balance à faire, et bon, finalement, moi, l'aïkido, je le fais surtout pour... mon intérêt pour la culture japonaise, parce qu'il faut bien faire du sport pour rester en forme. Et bon, j'aime bien l'esthétique de l'aïkido, mais je pense pas qu'il faille prétendre Steven Seagal, il fait de l'aïkido, il est super efficace en combat réel. Alors évidemment, maintenant je suis peut-être pas l'aïkidoka typique, hein. Je suis sûr qu'il y a des clubs d'aïkido où on dit que l'aïkido est efficace, et c'est là qu'on rentre dans le bullshido. Je vais donner deux, après avoir un peu fait cette brève discussion du débat autour de l'efficacité en combat réel des arts martiaux versus des sports de combat. Bon, évidemment, les arts martiaux prétendent souvent qu'ils sont efficaces à cause du ki ou du chi, donc de l'énergie interne. Il y a cette distinction qu'on fait entre les sports de combat qui seraient externes parce qu'ils utilisent la musculature, les arts martiaux, style Aikido, donc la voie de l'harmonie de l'énergie, ou le Tai Chi, qui utiliserait le Ki. Et donc, c'est une approche énergétique. C'est l'élan vital, le vitalisme. Évidemment, la science a réfuté l'existence de ces énergies, élan vital ou Ki. Et donc, bon, évidemment, c'est une métaphore, mais il y a des gens qui croient que le Ki ou le Chi existe, ou qui vont faire appel à ces énergies pour défendre l'idée que les arts martiaux traditionnels sont efficaces en combat réel. Évidemment, ça pose problème. Je pense que le ki ou le chi est efficace en termes de métaphore, parce que ça sert de temps en temps à visualiser. Plutôt que de faire une explication physique très complexe, c'est plus facile au professeur de dire visualiser comme une énergie qui sort de vos mains. Et les études en psychologie du sport montrent que ces types de visualisation permettent d'améliorer son mouvement. Mais c'est une chose de dire on va visualiser quelque chose pour améliorer la qualité du mouvement, de dire que l'énergie qu'on visualise est réelle, existe objectivement. Enfin, ça n'empêche pas non plus certains pratiquants, enfin, par exemple dans certains dojos d'aïkido, on fait des exercices respiratoires. Moi, je dis toujours, bon, c'est bien en fin d'entraînement pour calmer la respiration, mais si le prof fait ça, des exercices respiratoires pour canaliser le ki ou le chi, bon, là, ça généralement, ça, je ne suis pas très content. Et au niveau de ces croyances dans l'existence d'un ki ou d'un chi, une des grosses dérives bullshitoïstes, c'est l'idée qu'on puisse projeter à distance. Il y a certains professeurs d'arts martiaux qui prétendent qu'ils peuvent projeter juste en mettant leurs mains, ils font un atemi, donc une frappe sans toucher, et puis l'élève est projeté, quoi, il tombe tout seul comme ça. Il y a des vidéos sur YouTube si vous cherchez projection à distance. Et ils disent, bah oui, c'est le ki ou le chi qui sort de mes mains et qui projette, qui fait tomber l'élève. En réalité, il est clair qu'on est devant là quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de la suggestion et d'un effet de groupe. Pourquoi? Ben, simplement parce que ce qu'on observe, c'est que ça ne fonctionne que sur les propres élèves du maître. Il a conditionné ses élèves en leur suggérant la chose, mais ça ne fonctionne pas contre d'autres personnes. Et donc, même sur YouTube, si vous cherchez une vidéo qui s'appelle Kiai Master Yanagi Ryuken, vous verrez donc ce prof d'arts martiaux qui projette ses élèves à distance. Et puis il a lancé un défi en disant, ben voilà, je peux battre n'importe qui en le projetant à distance comme ça. Et il y a un jeune pratiquant de karaté qui s'est pointé puisqu'il y avait une récompense, de l'argent, enfin. Donc il y a une autre vidéo qui s'appelle donc cette fois-ci Kiai Master Yanagi Ryuken. Je mettrai les liens en note de l'émission. Donc Kiai Master Yana Giryoken versus Young Karate Man, et le vieux maître il s'approche de lui, essaye de le projeter à distance, ça fonctionne pas, et puis le karatéka lui fout la trempe de sa vie. Parce que ce type de projection à distance ne fonctionne que sur ses propres élèves, à cause d'un effet de la suggestion. On est beaucoup plus proche donc de l'hypnose de type illusionniste, pas de l'hypnose médicale, mais de l'hypnose d'illusionniste, que des arts martiaux réels. Donc ça, c'est méfiez-vous des gens qui prétendent pouvoir projeter à distance. Et je peux vous assurer que c'est pas quelque chose uniquement en Orient, hein. J'ai vu des clubs en Belgique où le maître faisait de la publicité en disant qu'il était capable de projeter à distance ses élèves. Toujours sur cette idée de ki, chi, etc. Les maîtres ont tendance, enfin les professeurs d'arts martiaux traditionnels ont tendance à faire des démonstrations pour prouver l'existence du ki ou du chi à leurs élèves. Enfin, les maîtres, ceux qui se posent problème à mes yeux. Le plus grand classique, c'est le bras pliable. Donc, le maître tend son bras à l'horizontale. Encore une fois, si vous tapez dans Google, vous verrez des démonstrations de bras pliables. En anglais, c'est Iron Shirt. Et alors, les élèves essayent, se mettent en dessous, agrippent le bras et essayent de le plier. Et ils n'y arrivent pas. Et alors, le maître dit, ben voilà, c'est parce que j'ai projeté mon ki à travers mon bras. C'est pour ça que vous n'êtes pas arrivé à la plier. Donc, les élèves sont à deux généralement. Et donc, le maître, quasiment magiquement, arrive à garder son bras tout droit alors que deux personnes essayent de le plier de toute leur force. Il y a différents problèmes liés à ce type de démonstration. Ces démonstrations sont finalement encore plus des trucs d'illusionnisme qui ont été importés dans les arts martiaux que vraiment des choses utiles en combat réel. Ce genre de truc, le bras pliable, n'a en réalité que fort peu de rapport avec le combat. Vous imaginez une situation de combat réel, vous n'allez pas commencer à vous amuser à faire du bras pliable. Ce genre de démonstration vise à croire aux élèves crédules non seulement que le ki ou le chi existe, mais que par extension, le reste de leur pratique tient la route. Si le professeur est capable de faire ça, ça veut dire que le reste est efficace. Ben non, c'est pas parce qu'il sait faire un bras pliable que tout le reste de ce qu'il vous enseigne est magiquement efficace. Ces genres de tours de magie sont extrêmement faciles et apprendre à réaliser. Et enfin, ça est censé prouver l'existence d'une énergie interne, donc ce sera l'explication proposée, alors qu'en réalité, cet exercice repose sur la mécanique physique du corps humain et sur la capacité à visualiser quelque chose. Généralement, les élèves qui essayent de plier le bras sont dans une position très difficile pour plier le bras de manière effective, parce qu'ils n'ont pas bien, ils n'ont pas de bons appuis. Et tout ça peut s'expliquer de manière purement physique sans invoquer le ki ou le chi. Bon, voilà, j'ai déjà abordé pas mal de choses. C'est des bons exemples de bullshido. Donc, deux choses, deux grands points. Bon, là, le débat autour de l'efficacité des arts martiaux et des sports de combat. Pour être efficace en combat réel, si ce que vous souhaitez, il faut un, qu'il y ait des coups qui soient portés pendant l'entraînement, deux, que l'accent soit mis sur la condition physique, et trois, qu'il y ait un entraînement et debout et au combat au sol, avec coups portés toujours. Ça, c'est la combinaison gagnante. Alors, à mettre en balance avec votre désir de vous en prendre plein la gueule et de vous casser des choses et d'avoir le corps très abîmé à un jeune âge. Et le deuxième point, ben, se méfier à 200% de tous les trucs d'illusionnistes qui sont utilisés par des maîtres en arts martiaux pour soi-disant prouver l'existence du chi ou du ki. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrasseur. D'ici là, à la semaine prochaine, sceptiquement vôtre.
Bushido. Bushido. Bushido! Fuck yeah! Coming again to save the martial fucking way, yeah, Bushido! Fuck yeah! Aliveness is the only way, yeah, charlatans, your game is through. Cause now you have to answer to Bushido! Fuck yeah! Tap that ass and choke on our balls, Bushido! Fuck yeah! What you gonna do when we come for you? Now it's a dream that we all share. It's the hope for tomorrow! Fuck yeah! Sparring! Fuck yeah! Wrestling! Fuck yeah! Jiu-jitsu! Fuck yeah! Muay Thai! Fuck yeah! Kali! Fuck yeah! JKD! Fuck yeah! MMA! Fuck yeah! Boobies! Fuck yeah! Oh, fuck yeah! Oh. Ah, Ashita Kim, fuck yeah! Frank Dukes, fuck yeah! George Dillman, fuck yeah! SMA, fuck yeah! Andy Murray, fuck yeah! Race Bennett, fuck yeah! Commander Cole, fuck yeah! Sharp Phil, cool, fuck yeah! Count Dante, fuck yeah! Moon to Jupiter! Fuck yeah, yeah, fuck yeah! Throwdowns, fuck yeah! Broken noses, fuck yeah! Rear naked chokes, fuck yeah! Arm bars, fuck yeah! Forearm invasions, fuck yeah! Mass, fuck yeah! Newbies, fuck yeah! Lawyer squad, fuck yeah! Sports spiders, fuck yeah! Point sparring! Point sparring? Fuck yeah, fuck yeah! McDojo monsters, trolls! Ah, Bullshito!